Vous êtes sur RTL.
Fiat.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h24, c'est donc une semaine décisive qui démarre pour la ministre de la Santé Agnès Buzyn depuis bientôt 6 mois. Elle fait face à une grève aux urgences. 249 sites étaient en grève ce week-end, selon le collectif Interurgences. Et Agnès Buzyn doit annoncer de nouvelles mesures cet après-midi avant une assemblée générale des grévistes mardi et une manifestation à l'appel de la CGT mercredi. Bonjour Marie-Pierre Martin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes infirmière aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker et membre du collectif Interurgences. Vous étiez d'ailleurs de garde cette nuit. Merci de passer par le studio d'RTL avant d'aller vous reposer. Et par téléphone, nous sommes avec un médecin député. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Médecin donc et député de La République En Marche de l'Isère. Marie-Pierre Martin, comment s'est déroulée concrètement votre garde cette nuit à l'hôpital Necker? Est-ce que l'effet de la grève est palpable? Et est-ce que les patients ressentent les effets de cette grève?
Bon, la nuit, elle s'est passée comme toutes les autres nuits. Après, est-ce que les patients ressentent les effets de la grève? Je dirais non. On travaille en mode dégradé tout le temps. Donc... un peu plus, un peu moins.
Vous nous dites que c'est pas pire
pareil.
Que d'habitude?
C'est pas pire que d'habitude. C'est pas mieux non plus, mais c'est pas pire.
Dégradé, ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire qu'on travaille déjà dans des conditions difficiles, dans des conditions qui sont difficiles pour nous, pour les patients. Donc le fait qu'on soit en grève, ça change rien, ni pour eux, ni pour nous.
En quelques mots, décrivez-nous la situation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe et que vous ne trouvez pas normal et qui, selon vous, est réellement problématique?
On a des patients qui attendent longtemps. On a des patients dont on n'arrive pas à s'occuper correctement parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'eux, on n'a pas le temps de prendre le temps de faire des soins en restant humain, en faisant une prise en charge qu'on pourrait attendre en étant aux urgences. Aujourd'hui, on n'arrive pas à gérer ça, on n'arrive pas à le donner, puisqu'on a une sollicitation qui est trop importante par rapport à ce qu'on peut donner.
C'est la chaîne? Si je puis dire qu'on est dans
un travail
dans
à la chaîne. Oui, on peut dire qu'on est en travail à la chaîne.
Vous savez qui vous soignez? Ou est-ce qu'il vous arrive de douter?
Des fois, il nous arrive de douter. Des fois, il nous arrive de ne pas connaître les prénoms. Enfin, quand on s'occupe d'une quinzaine de personnes dans la nuit, je vous avoue que les prénoms, on ne s'en souvient pas. C'est le patient qui a ça, ma pathologie.
Si c'est que le prénom, ça va, mais on peut objectivement souhaiter que ça ne soit pas plus. Après deux séries d'annonces, mi-juin puis début septembre, c'est à 15h que la ministre annonce son fameux plan d'action pour la refondation des urgences. Ce plan est inspiré des propositions du député de Charente, Thomas Meynier, et du chef du SAMU de Paris, Pierre Carli. Dans quel état d'esprit êtes-vous et qu'attendez-vous de ce plan?
On attend beaucoup de réponses. Les réponses qu'on a eues jusqu'à maintenant, elles ne sont pas satisfaisantes. Elles ne sont pas suffisantes pour nous calmer aujourd'hui. Donc on espère beaucoup. On espère que tout va être réglé.
Mais vous reprochez à la ministre une méconnaissance des problèmes. Le fait qu'elle soit conseillée aujourd'hui par le chef du SAMU de Paris, est-ce que ça vous rassure? Et pouvez-vous nous donner vraiment alors des exemples très concrets? Alors, demander de l'argent, on peut toujours le faire et ça peut être parfaitement légitime. Mais voilà, où est-ce que vraiment ça pêche et il faut quelque chose?
Par exemple, je vais reprendre une des propositions qu'elle a faites. Elle nous parle de bed manager. Aujourd'hui, un bed manager, ça fait 10 ans que ça existe en fait. Ça fait 10 ans qu'on
vous explique ce que c'est qu'un bed manager.
Un bed manager, c'est une personne qui va s'occuper de gérer ce qu'on appelle les lits d'aval. Mm-hmm. Donc c'est les places d'hospitalisation d'une personne ou d'une autre. Oui. On vient, telle personne a besoin de rester hospitalisée et du coup, comme on ne sait pas, il y a quelqu'un qui gère pour trouver la place à cette personne.
Donc trouver un lit.
Voilà, trouver
dans le bon
un
service
lit.
Et le bon hôpital.
Voilà. D'accord. Et pas trop loin, si c'est mieux. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, on est confronté à deux problèmes. Le premier, c'est que ça fait 10 ans que ça existe, donc c'est pas très innovant. Et la deuxième, on veut manager quoi? On n'a pas de lit, en fait. Donc ça, il sert
donc
à rien.
C'est même pas un problème de dispatching,
place.
C'est le nombre de lits qui n'est pas suffisant selon vous.
Il n'y a pas assez de lits d'aval. Il y a des lits qui continuent à fermer tous les jours.
Pardonnez-moi, toute personne qui va dans un hôpital passe son temps à passer devant des chambres totalement vides. Aussi, c'est ça qui est quand même stupéfiant.
C'est une réalité parce que ouvrir des lits, il faut avoir aussi le personnel pour pouvoir s'occuper des personnes. On ne peut pas juste dire il y a une chambre de libre, donc on met quelqu'un dedans. Il faut le personnel paramédical et le personnel médical pour s'occuper de ces patients. Et aujourd'hui, même ça, ça pêche.
Olivier Véran, le journal du dimanche, évoquait hier trois mesures choc en préparation avec des réouvertures de lits, une réforme de la tarification et un numéro de téléphone unique pour les secours médicaux. Est-ce que c'est suffisant?
Ça complète, ça compléterait, si c'était confirmé, les nombreuses mesures qui ont été annoncées, des mesures qui sont pratiques et qui sont inspirées du terrain. Votre invitée a raison, parce qu'elle fait l'analogie avec une forme de travail à la chaîne, où elle dit finalement elle ne connaît même plus forcément le prénom, elle ne sait plus nécessairement où est-ce qu'elle doit aller, à quel moment, etc. Elle explique aussi la charge de travail qui consiste à aider un patient à sortir des urgences, avec la gestion des lits, etc., etc. Donc il y a plusieurs grandes pistes, il y a plusieurs grandes réformes à mener. Celle qui consiste à réduire le nombre de patients qui vont aux urgences. Beaucoup vont aux urgences, pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent pas de médecin en ville, parce qu'ils ne savent pas quelles sont les structures de soins non programmés qui leur sont accessibles. Ça, ça peut être la réflexion sur un numéro unique, en même temps qu'on est en train de créer des centres ambulatoires, c'est-à-dire des centres en ville pour accepter les patients qui sont en situation de semi-urgence. Vous avez également des mesures qui portent, c'est vrai, sur les lits d'aval, parce que lorsque les urgences, vous avez beaucoup de patients qui rentrent et pas beaucoup de patients qui sortent, là, ça devient encore plus compliqué. Moi, je me souviens de mes gardes qui sont pas si lointaines, où effectivement, on se retrouvait avec 15 patients quand on prenait la garde à 18h, et on avait un nouveau patient qui arrivait par médecin.
Pardonnez-moi, on a donc besoin surtout de recrutement, non ? Il me semble par ailleurs que durant l'été, un recrutement massif était censé être mis en place.
Yves Calvi, il y a deux possibilités. Ou on continue d'avoir une augmentation de 6% de la fréquentation des urgences chaque année. C'est-à-dire, ou chaque année, il y a 1 million ou plus d'un million de patients supplémentaires qui vont aux urgences. Auquel cas, il faut revoir le dimensionnement des urgences, revoir la façon dont on accueille les patients en admission aux urgences. Sinon, on va résoudre la crise aujourd'hui. Elle reviendra dans quelques années, dans 4 ans, dans 5 ans. C'est pas la première crise des urgences. Elles sont toujours justifiées. Ou alors, on considère qu'il faut essayer de limiter l'urgence à ce qu'elle doit être et organiser les soins en amont pour faire en sorte qu'un patient qui passe la porte des urgences, sur un patient qui relève du plateau technique de l'hôpital.
Donc vous nous dites que ça se joue avant d'arriver aux urgences, dans le dispatching ou dans la possibilité ou non de trouver une autre solution.
Ça se joue avant d'arriver aux urgences, ça se joue aux urgences avec la capacité d'offrir des soins de qualité et en quantité suffisante, et ça se joue en aval des urgences, c'est-à-dire comment est-ce qu'on permet aux patients de ne pas rester trop longtemps, 24 heures sur un brancard inconfortable, pour pouvoir sortir plus vite. Et il y a la question du financement que vous posez. Les urgences des hôpitaux français sont financées à l'activité. Plus il y a de patients qui arrivent à l'hôpital, plus l'hôpital reçoit d'argent. Il faut aller vers un système de financement qui fasse davantage appel à ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle. Vous avez un service d'urgence pour un bassin de population. Eh bien, il faut pouvoir organiser les soins non programmés de manière à ce que ce n'est pas une incitation non plus pour l'hôpital.
Ce débat ne fait en quelque sorte que commencer, mais j'ai une toute dernière question. Marie-Pierre Matin, est-ce que les personnels paramédicaux qu'on annonce pour effectuer des tâches médicales vous semblent être une possible solution ?
Alors, c'est ce qu'on dit là, ça s'appelle des IPA, des infirmiers en pratique avancée.
Oui.
En réalité, un infirmier en pratique avancée, c'est un diplôme qui est totalement différent, qui est une continuité qui va vraiment être un intermédiaire entre les médecins et les infirmiers. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose comme IPA urgentiste, en fait, ce serait des infirmiers sous protocole de coopération avec une prime de 80 euros. Donc, ce serait des protocoles de coopération, donc des infirmiers qui seraient capables de suturer, de faire des radios, mais en fait tout ça c'est pas du tout adapté puisque c'est ce qu'on fait déjà. Donc à quoi ça sert de créer un nouveau diplôme ? Comment on finance ce nouveau diplôme pour des choses qu'aujourd'hui on fait déjà aux urgences ? L'intérêt ce serait de replacer ces IPA en ville et de faire un lien entre la pratique en ville, les médecins généralistes et les urgences pour faire un lien. Mais tout ça, c'est des choses qui vont arriver dans un second temps. C'est pas ce qui va régler la crise aux urgences aujourd'hui. Aujourd'hui, ça, c'est très bien, mais ça va prendre des années à se mettre en place et on a besoin de solutions immédiates.
Il y a les urgences aux urgences et par ailleurs, les plans qui doivent tout simplement modifier et désengorger à terme nos urgences
mais
françaises.
Aujourd'hui, on a besoin d'infirmiers pour s'occuper des malades. On a besoin de lits d'aval et on a besoin d'une revalorisation pour pouvoir être en nombre et continuer à faire un travail en restant humain.
Merci Marie-Pierre Martin, merci Olivier Véran d'avoir l'un et l'autre participé à ce débat. Le débat continue sur l'antenne d'RTL et dans quelques instants, on fait un point sur l'actualité avec Dominique Tenza.
Yves Calvi, RTL Matin.